Je ne sais pas si on peut parler de contagion du printemps arabe au Maroc. Les événements que l'on peut craindre d'agitation, d'expression du mécontentement qui existe sont là. Par exemple, sur le plan économique, un ralentissement de la croissance dû donc au ralentissement des investissements et du poids de la dette. Mais cette croissance est quand même en train de reprendre. Même le ralentissement que l'on a vu dans le secteur du tourisme après l'attentat de Marrakech est en train de reprendre. Les transferts des Marocains résidant à l'étranger, principalement en France, se maintiennent et constituent un apport très important. Donc au niveau socio-économique, malgré de graves lacunes, c'est un pays très stable. Les Marocains s'identifient complètement à leur monarchie, à leur roi. Ils souhaitent bien sûr des réformes, mais ils sont pas du tout dans un esprit de contestation comme on a vu en Tunisie ou en Égypte.
Alors, il y a quand même ce mouvement du 20 février qui se réunit pacifiquement tous les week-ends, mais qui reste très minoritaire. Peut-on dire que le processus général de démocratisation mené par le pouvoir a tué dans l'œuf le mouvement de contestation dans le pays ?
Le mouvement du 20 février est important dans la mesure où il se fait entendre, où il continue d'avoir des sympathisants, où il continue de s'organiser. Il peut être appelé à croître, à se développer. Il reste des problèmes importants au Maroc et ils sont structurels. Ils ne vont pas disparaître avec l'apparition de ces réformes, la mise en place d'une nouvelle constitution. Ces problèmes demeurent quand même économiques. Une minorité très très riche, l'ensemble d'une population démunie. Vous avez une couche de Marocains extrêmement éduqués qui ont été dans les meilleures universités du monde et il faut le souligner sans arrêt, reviennent dans leur pays, se mettent au service de leur pays. Mais vous avez un taux d'analphabétisation qui reste très 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 élevé dans les campagnes et dans la ville. Donc la constitution, elle ne peut pas tout désamorcer. Alors c'est peut-être là, après les élections législatives, une fois qu'on s'est entendu sur la représentativité, ce n'est qu'après que l'on pourra vraiment savoir que l'ensemble de ces réformes tue dans l'œuf la contestation.
La date des prochaines élections législatives a été avancée au 25 novembre. Cette décision peut-elle avantager certains partis plutôt que d'autres et finalement, quelles vont en être les conséquences ?
Bien évidemment, l'avancée de cette date va avantager les partis bien en place déjà. Le PPS, donc le Parti du Progrès et du Socialisme, n'a pas beaucoup de soucis à se faire. Le PJD, le Parti Islamiste de la Justice et du Développement également, parce qu'ils font déjà partie du paysage politique, mais devant ce que l'on a appelé une révolution tranquille, une révolution démocratique du Maroc, on ne peut que constater le temps très 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 réduit pour que de nouveaux partis se créent, s'organisent, se fassent connaître. Et ça donc, ça va être un handicap majeur pour tous ceux qui sont autour du mouvement du 20 février et tous ceux qui jusqu'à présent n'ont pas pu s'organiser. Donc c'est une vraie ouverture, mais en même temps la rapidité du calendrier ne permet pas à cette ouverture de s'exprimer dans le scrutin du 25 novembre. Nous verrons après et par rapport à la réaction de ces nouveaux partis, par rapport aux frustrations qui vont être engendrées, par rapport peut-être s'ils réussissent à se faire entendre au programme qu'ils vont proposer, on verra exactement où en est le Maroc au niveau socio-économique, ce que souhaitent les gens, comment ils sont représentés.